Tous les écologistes le savent, l'écologie ça rend dépressif, c'est vrai. La biodiversité, l'énergie, l'eau douce, le climat, c'est vraiment la merde.
CO2, mon amour.
Alors comment réussir son malheur tout en sauvant la planète? Bon, d'un côté il y a les antidépresseurs naturels comme le millepertuis. Moi la solution que je préconise, c'est vin bio, parce que de toute façon, ce serait simple, au bout d'une bouteille, sauper la planète et tout, on n'a plus rien à branler, sauf fou, on va tous mourir en plus, alors en penchant, attends, boire des coups.
Sur France Inter.
Et puis de toute façon, comme on dit chez les Kennedy, on va pas se laisser abattre.
Ah bah oui, non, mais c'est de bon goût, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir. Non, avec grand plaisir, là c'était un extrait de Bridget Kyoto, alias Nordwallat, que l'on retrouve sur la toile. Donc, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature et qui essaye de prendre son temps aussi, avec aujourd'hui Mathias Alléon à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et Thomas Lehété. Et c'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Qui commence par une petite humeur. Alors, trois bonnes nouvelles en provenance de nos amis les multinationales. Petit A, Kraft General Food, sympathique PME qui vend du snacking, plats ultra transformés, chocolat, boissons, j'en passais des meilleurs, au chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars, ça c'était en 2012, vient de passer 15 milliards en dépréciation d'actifs. Petit B, Coca-Cola a vendu 600 millions de litres de moins que l'an passé, donc le modèle économique sel, sucre, obésité, diabète, bref, quatre fléaux et un enterrement, se trouve un tout petit peu ébranlé. Et Bayanto, me direz-vous dans tout cela, eh bien l'action Bayer, c'est le petit C, ne va pas très bien. Le groupe a racheté donc Monsanto, 63 milliards, en décidant au passage de larguer le nom dans la première déchetterie venue, car il est un peu lesté de scandales sanitaires et environnementaux. Mais le 27 mars dernier, donc Bayer est condamné à régler 78 millions à un jardinier intoxiqué au Roundup, dont la durée de vie est malheureusement plus proche de celle de l'abeille que de celle de Mathusalem. L'action a pris une foreuse et a plongé de 60% en quelques temps. Le groupe est évalué à 53 milliards aujourd'hui, donc moins que le coût du rachat de Monsanto. Et en plus, il y a 11 000 plaintes contre Monsanto sous le coude aux États-Unis. Comme le rappelle Stéphane Foucault justement dans Le Monde, les lois de la nature rattrapent le business model. Alors, visionnaires, les stratèges de Bayer avec ce rachat un peu pourri, allez savoir. C'était donc les conseils de gestion boursière de Danton Denis dans CO2 Mon Amour. Donc, rabattez-vous sur du sûr, des pétrolières, du gaz, des charbonnières, bref, du très très peu polluant. On a quand même aussi un petit espoir. Nous étions donc jeudi dernier, en conférence avec l'ami Frédéric Danhé à TBS. Et qu'est-ce que c'est? C'est Toulouse Business School, donc une école de commerce, comme il y en a pas mal, remplie de décideurs donc financiers de demain. Alors certes, vous avez un bon nombre d'étudiants qui sont déjà dopés à la croissance et au taux de retour sur investissement à deux chiffres, mais ils consomment un burger équitable et achètent des pommes bio emballées sous plastique en pensant sauver la planète. Mais à côté de ça, voilà, là il y a plein de jeunes pousses. Vous avez des jeunes filles très actives avec Chloé Lacoum à sa tête, 21 ans, qui a créé donc le bureau du développement durable en comprenant les limites de ce mot-là aujourd'hui, et aussi organisatrice des assises nationales de ce développement durable, et qui se pose des questions quand même un petit peu différemment. Ok, on fera du commerce, mais lequel et pourquoi faire? Et on va comparer aussi les entreprises. Alors en français, comparer, ça se dit benchmarking, qui bousille donc le moins la planète pour coller à nos valeurs. Demain, il faudra donner une valeur à ce qui n'en a pas, au rôle social, à l'environnemental aussi d'une entreprise. Alors non, vous me direz, ce n'est pas la majorité de l'espèce qui pense ainsi, ça ne va pas assez vite, mais quand même, quand le printemps des esprits est là, il faut aussi le saluer. Alors on va se faire plaisir aujourd'hui parce qu'on va recevoir, nous recevons, bonjour Jérémy Pichon.
Et bonjour David.
Alors Jérémy Pichon, vous avez sorti avec, illustré par Bénédicte Moret, je tiens à le dire, un très bon ouvrage qui s'appelle Famille en transition écologique aux éditions de Soucard. Donc ça c'est après la famille zéro déchet. Juste, on va faire comme on dit un peu de teasing en français, ça va être quoi l'idée?
L'idée du livre, c'était de redéfinir la notion de transition, parce que à chaque fois que je dis je fais de l'écologie, on me dit je fais le tri, je recycle, comme si c'était une vraie solution. Et puis à chaque fois que je parlais de transition, on me dit la transition énergétique, faut mettre des panneaux sur son toit. Et l'idée, c'était de redéfinir la transition telle qu'elle est aujourd'hui dans sa nécessité, c'est-à-dire de faire une transition qui soit globale, sociale, politique, économique, et pas seulement de mettre des panneaux et de continuer à consommer tel qu'on le fait.
Et ben voilà. C'est parfait. Donc on va évidemment regarder donc tout cela avec beaucoup d'attention. Et puis notre actualité on va dire, de début d'émission. On la doit à agir pour l'environnement, donc cette association avec à sa tête Stéphane Kerschov, qui en est le délégué général. Bonjour à vous. Alors, une formidable journée sans plastique sur France Inter, hein, donc c'était il n'y a pas longtemps. 24% des emballages, 14% des plastiques usagés sont collectés, 4% d'ailleurs sont perdus en cours du processus de recyclage. Alors, dites-nous, Stéphane Kerschov, la prochaine étape pour le plastique?
Bonjour Denis. Nous, on espère que les plastiques à usage unique, la typologie soit largement élargie, qu'on ne se contente pas d'interdire les cotons-tiges et quelques couverts en plastique, de façon à ce que les plastiques à usage unique, dans leur immense globalité, soient interdits et qu'on retrouve le sens de la mesure, et notamment ne plus utiliser des produits en plastique pour un usage qui va se réduire à quelques minutes. Et on pense évidemment aux bouteilles plastiques, donc l'évidence voudrait qu'on revienne très rapidement maintenant à la bouteille en verre consigné, ce qui est plébiscité. On a fait un sondage récemment, il y a près de 90% des gens qui souhaitent ce retour de la bouteille en verre consigné.
Donc, 9 Français sur 10 souhaitent un retour à cette bouteille en verre consigné.
9 Français sur 10, oui, 90%. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, il y a une demande des consommateurs et il n'y a pas de réponse des industriels. Aller dans un supermarché, trouver une bouteille en verre consigné, aujourd'hui ça n'existe plus. Or, il y a une demande et ça permettrait de fidéliser des clients qui reviendraient sur leur point de vente pour ramener les bouteilles et qu'elles soient réutilisées.
Alors ça, évidemment, il faut changer aussi un peu de mentalité, ce qui n'est pas toujours très simple, parce qu'on peut se dire « Ah bah ouais, mais c'est embêtant, etc. et » tout. Et en fait, non, ça ne l'est pas, c'est une autre manière de regarder ces emballages. Stéphane Kerschov, je vous fais intervenir aussi parce que parfois il y a des fausses bonnes idées écologiques et on ne savait pas forcément. Racontez-nous.
On a aujourd'hui beaucoup axé la question des déchets sur le recyclage. Alors déjà 3% des plastiques en dehors des bouteilles et flacons, 3% des plastiques triés sont réellement recyclés. Pour l'immense majorité, ça ne concerne que les bouteilles en plastique qui vont être réutilisées sous forme de polaire. Or, une étude de 2016 a mis en évidence le fait que à chaque lavage, les polaires relarguaient près de 700 000 fibres de microfibres plastiques dans l'environnement et dans les eaux de lavage, ce qui est considérable et qui peut représenter plusieurs milliards de microparticules de plastique. Donc pour nous, une fois encore, il faut réduire à la source, éviter autant que faire se peut la mise sur le marché de plastique, parce qu'on ne sait pas les traiter. Alors on ne les voit pas, elles sont dans les eaux de lavage, mais elles sont bien présentes dans l'environnement et elles contaminent les milieux aquatiques.
Et comme ce sont des microfibres, elles ne vont pas être filtrées par les stations d'épuration. Elles seront peut-être propres, mais en tout cas, elles continueront à partir et on les retrouvera dans les rivières, dans les estuaires et dans les mers.
Absolument. On les retrouve même, une étude de l'année dernière, octobre 2018, a montré que dans les sels humains, on retrouvait jusqu'à 8 à 9 sortes de plastiques différents. Donc, une fois encore, la contamination, elle ne se résume pas au milieu aquatique. Évidemment, tout est dans tout et on retrouve une contamination, y compris du corps humain, par les plastiques.
Stéphane Kerschov, parmi vos combats, parmi vos actions, il y a celle quand même contre la publicité. Alors, sous quelle forme ?
C'est notamment la publicité rétro-éclairée et les panneaux de vidéos publicitaires qui sont pour nous le symptôme de la schizophrénie. On ne cesse d'inciter les citoyens à modérer leur consommation, à faire des efforts pour l'environnement. Et parallèlement à ça, on constate aujourd'hui la multiplication de panneaux publicitaires qui vont induire une consommation électrique énorme. Chaque panneau publicitaire rétroéclairé va consommer l'équivalent de ce que 3 familles vont consommer en électricité. Donc on est dans un message contradictoire avec les appels à la responsabilité. Il faudrait un minimum de cohérence et surtout des collectivités locales qui, tout à la fois, ne puissent plus inciter les consommateurs à réduire leur consommation et autoriser des panneaux qui vont gaspiller cette énergie.
Parce que le point de départ, ce sont quand même les municipalités qui, évidemment, moyennant redevance, vont toucher quelque chose et qui vont donc dire si oui ou non elles acceptent les panneaux publicitaires sur leur terrain.
Absolument. Ce sont aujourd'hui tout à la fois les collectivités locales qui ne vont pas résister à l'appel des publicitaires à multiplier ces panneaux énergivores, et aussi un gouvernement qui ne légifère pas et qui tolère ce genre de dispositif publicitaire qui gaspille une énergie rare et précieuse.
Mmh. Ce qui fait que sur le même panneau, vous allez avoir des indications en vous disant « mais consommez moins, tenez, vous allez pouvoir acheter de merveilleuses LED qui vont consommer beaucoup moins, mais ce sera sur un panneau publicitaire lumineux, cherchez l'erreur ». Merci beaucoup Stéphane Kerschov. Donc Agir pour l'environnement, vous avez le site sur le site de CO2 Mon Amour. Merci Stéphane.
Merci Denis.
Et nous poursuivons donc ce voyage merveilleux donc dans, dans l'univers de l'environnement. Tenez, on va se faire du bien. Donc Séverin, parle-moi. Et ensuite, transition, oui, mais laquelle? Écologique, avec Jérémy Pichon.
Si un jour notre ciel devient gris, avant que l'on perde notre envie, si nos sourires n'ont plus d'éclat, parle-moi, parle-moi. Et si j'oublie de te regarder, que notre vie est trop installée, avant que notre amour devienne flou, parlons-nous, parlons-nous. Qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des flammes, ça m'est égal, tant que le silence ne s'installe pas. Parle-moi, oh, parle-moi. Je préfère voir voler nos affaires, que les bougies puissent faire des éclairs. Car si le cœur n'est plus jaloux, parlons-nous, parlons-nous. Avant que je m'imagine dans d'autres lits, parle-moi. Que tu te fasses belle quand je suis parti, parle-moi. Pour qu'on reste toujours debout, parlons-nous, parlons-nous. Qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des flammes, qu'il y ait des rires, qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des pleurs, ça m'est égal, tant que le silence ne s'installe pas. Parle-moi, oh, parle-moi, 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 parle-moi. Qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des flammes, des larmes, qu'il y ait des pleurs, ça m'est égal, tant que le silence ne s'installe pas.
Séverin, donc choisi par Thierry Dupin, notre programmateur, parle-moi sur France Inter. Aujourd'hui, famille en transition écologique aux éditions de Soucard. Jérémy Pichon dans ce studio. Alors, changer son monde pour changer le monde. Alors, vous n'êtes pas parti des Pablo, on va dire, Servingman, c'est-à-dire avec la notion de l'effondrement, peut-être en tête de pont, hein.
Je pense qu'on est dans une situation où on est dans une crise anthropologique, ça c'est clair, c'est Yves Cochet d'ailleurs qui le rappelait, puisqu'on a une crise qui est à la fois politique, économique, sociale, enfin à tous les niveaux, et d'ailleurs les gilets jaunes qui sont en bas de la rue ici, là où on est, nous le rappellent. Après, je n'ai pas vraiment l'idée que ça va s'effondrer et qu'on va aller dans le mur, j'ai plutôt l'idée que si on ne dit rien, et si on continue à accepter tout ça, ceux qui sont aux manettes et nos élites financières et politiques vont continuer à s'engraisser, continuer à piller les territoires, continuer à piller les ressources et la première qui est la ressource humaine en France. Et je pense que si on ne dit rien, le système va continuer, va se durcir avec des conflits, avec des inégalités majeures, mais il va perdurer. Je veux dire, on parlait du peak oil il y a quelques années, il n'est toujours pas arrivé. Et...
Alors ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, 95% de l'économie dépend toujours, on va dire, de ce pétrole, avec des conséquences humaines, environnementales qui sont très lourdes. Et fin 2008, on nous disait, c'est le peak oil, donc ça va être le début de la fin, donc de la décroissance du pétrole. Et puis, le pétrole de schiste est arrivé, comme vous le dites, avec en fracassant la roche, et là en fait c'était la continuité. Quoi.
Clairement, et on est complètement passé à côté en France, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de gaz de schiste, et on a eu beaucoup de vidéos avec ces gaz qui s'enflammaient dans les cuisines, etc. Et puis on a eu un consensus assez rapide avec les maires notamment qui sont montés au créneau en disant on veut pas de gaz de schiste dans nos communes, nos territoires, etc.
C'est-à-dire qu'on a plus de tourisme hein, aussi, il faut savoir ça.
Voilà, et je me rappelle des maires d'Ardèche hein, qui avaient été très forts là-dessus, et du coup on a dit bon bah c'est pas chez nous. Et puis en fait, le pétrole de schiste, c'est juste aujourd'hui la remise en question totale de la notion même de réserve de pétrole. C'est-à-dire que si on prend 2,5 km de roche jusqu'à la roche mère dans la terre, on se rend compte qu'on en a pour des milliards et des milliards de barils de pétrole devant nous. C'est-à-dire que le peak oil, il y en a pas. Aujourd'hui, on a des réserves et on voit les États-Unis qui se sont lancés à toute berzingue là-dessus, sont devenus les premiers producteurs de pétrole au monde avec un système aujourd'hui capitaliste tel qu'on le connaît, qui est garanti par le pétrole et avec des réserves pour des centaines d'années. Donc ce peak oil, on y a tous cru, on attend, ouais, 2006, 2008, à chaque fois on fait des perspectives et on se prend tous pour notre Adamus et puis on se plante et on se rend compte que finalement le système continue, perdure et pour ceux qui s'enrichissent le plus, ça continue avec le sourire. Hein.
Alors trois niveaux, donc Jérémy Pichon, on le dit très souvent aussi dans cette émission, il y a le niveau politique, le niveau local et quand même le niveau individuel qui n'est pas neutre, hein. Que ce soit du colibri pour les uns, etc. Donc c'est ça. Actuellement, ça s'emboîte pas encore véritablement. Mais vous dites la révolution, c'est nous. Puis vous avez plein de gens qui vous disent ah bah ouais, mais enfin moi j'aime pas trop changer parce que simplement on en avait parlé avec il y a pas tellement longtemps sur le big humain donc à cette table même. Puis d'autres personnes vont vous dire bah oui d'accord, mais enfin 1,3 milliard de Chinois, 1,2 milliard d'Indiens, qu'est-ce que je peux faire quoi. Donc, vous dites vous essayez de combattre ça vous.
Oui, moi, j'essaye de c'est la tyrannie du et du ou. Alors, est-ce que on doit le faire nous? Est-ce que c'est les politiques? Alors, on a toujours, c'est pas moi, c'est les industriels, c'est pas moi, c'est Macron, c'est Trump. Évidemment que les trois niveaux sont importants. Et évidemment que les trois niveaux vont être nécessaires. Moi, je pense qu'il y a un niveau individuel, évidemment, dans ses habitudes personnelles, un niveau collectif, local, territorial, et un niveau politique avec tout ce maillage qui est déjà en place, de la mairie jusqu'à l'Europe. Et les trois vont être nécessaires. N'empêche que si l'individu il décide pas, lui, dans son quotidien, de changer des choses, s'il décide pas de se mobiliser avec ses copains, s'il décide pas de faire le changement, il n'arrivera pas. C'est-à-dire que les hommes politiques qu'on a aujourd'hui au gouvernement, à l'État et en Europe, c'est les hommes politiques qu'on mérite. C'est-à-dire qu'ils sont à l'image de la société. Ce qu'a fait Macron pour être élu, c'est uniquement du marketing politique. En nous disant ni gauche ni droite, c'est ce qu'on disait tous à l'époque. Et donc, il s'est engouffré là-dedans. Donc, si on l'a eu lui, c'est bien parce que on le méritait quelque part. Donc, j'ai envie de dire que si aujourd'hui, on décide, nous individuellement, de faire autrement, de boycotter les enseignes, d'aller vers des collectifs d'action, etc., tout ça remonte et on va réussir à faire des choses aux autres niveaux. Mais la base et la mobilisation de tout ça, c'est pour moi l'individu qui décide, lui, à son niveau, de changer, évidemment.
Alors, un individu qui décide et qui l'a décidé en famille, hein, d'où aussi le titre de votre livre « Famille en transition écologique », bah, c'est Nicolas Berger. Bonjour Nicolas Berger.
Bonjour Denis.
Alors, je sais qu'on vous interrompt avec votre une petite fête de famille, parce que c'est l'anniversaire d'une de vos trois filles.
Exactement, oui.
Alors, vous êtes un peu concerné parce que vous êtes enseignant en éco-conception, vous êtes en sciences et génie des matériaux à l'UIT de Bordeaux, donc évidemment, il y a ça. Mais, vous êtes parti, en fait, vous vous êtes dit, allez, on y va. Cette fameuse transition, d'abord, c'est quelque chose qui se fait bien en famille. Vous aviez eu un premier poste à l'université de La Réunion. Bon, là, on a quand même conscience de la dépendance énergétique, hein, quand on est à 10 000 km de ses copains dans la capitale, même si on s'en fait sur place, donc l'avion. Vous avez choisi de rentrer en métropole à Pessac. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Comment vous traduisez cette transition pour vous au quotidien?
Alors, effectivement, je pense que c'est des questions qu'on se pose chaque jour, sur chaque achat, chaque décision. À chaque fois, on dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux pas faire autrement? Qu'est-ce que je cautionne aussi quand je vais faire prendre ces décisions, faire cet achat? Donc, c'est ces questions-là qui font ce chemin-là de famille en transition.
Alors, si on s'intéresse à votre maison, vous avez donc à peu près 110-120 mètres carrés en rénovation. Alors,
effectivement, c'est le fait d'avoir changé comme ça, d'être arrivé, ça nous a permis de se questionner, changement de logement, du coup, nouveau fournisseur d'énergie électrique. Donc on est parti chez Enercop, première décision. Ensuite, pour la banque, c'est pareil. On se pose une petite question, on regarde ce qui existe. Et donc on est arrivé chez la Nef. Alors, depuis, c'est Crédicop là maintenant. Mais
alors la Nef, c'est NEF, ouais. Hein, pour celles et ceux qui connaissent pas. Donc voilà.
Oui, la Nef, exactement.
Donc, alors cette banque-là, on dirait par rapport à une banque classique. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence?
Ah bah, le gros avantage, il y a une transparence déjà sur à quoi participe notre épargne quand on la place à la Nef ou au crédit coopératif. Et donc on sait quel projet on soutient avec notre épargne. Et si on regarde dans le livre de Jérémy, d'ailleurs salut Jérémy, on voit très bien que l'impact carbone de chaque euro épargné n'est pas la même suivant les banques. Et Et le choix de la nef, il n'est pas anodin, parce que si on regarde le classement dans le livre La famille en transition, c'est une des banques qui a le plus faible impact par euro épargné. Le Crédit Coop est juste derrière.
Donc il y a eu ça. Donc on va revenir aussi sur l'aspect financier, parce que le premier levier, il est là. C'est celui que l'on ne connaît pas forcément, mais véritablement il est là. On va y revenir avec Jérémy. Pour les transports, comment vous faites?
Alors sur les transports, on avait une voiture familiale et on a essayé. On a cherché un logement qui était le plus proche possible d'un de nos deux travails, pour qu'il y en ait un des deux qui aille très facilement au boulot. Et en l'occurrence, c'était moi. J'avais un peu plus de chance et donc.
C'est ça. C'est pas parce que vous êtes le mal dominant, non, c'est parce que vous avez plus de chance et tout.
Okay, voilà. Non, on a fait un gros travail. C'était déjà moi qui faisais plus de vélo pour aller au boulot.
Oui, d'accord.
C'est chronologiquement, en fait, j'ai trouvé le poste en premier et du coup, on savait pas encore où ma femme allait trouver un travail.
Donc, on était au mais c'est bon.
Mais concrètement, après, du coup, elle avait quand même 30 km aller-retour par jour. Et donc, la moitié de nos trajets avec la voiture, c'était du domicile-travail. Donc sur les 15 000 km/h, il y en avait 7 500 du domicile-travail. Et moi, je faisais mes petits allers-retours en vélo. Et là, récemment, par exemple, on a fait le pas. Mathilde a fait le pas et elle a, avec un vélo électrique, pour avoir un petit peu d'assistance, pour faire
des
allers-retours par jour.
Quand même, il faut les sortir.
Ça fait quand même des kilomètres. Et du coup, maintenant, depuis le mois de janvier, on fait ça avec un vélo, mais peut-être que si vous voulez l'interroger même en direct pour savoir les...
Ah bah oui, Mathilde, où êtes-vous? Vous êtes là, avec les petites, là, je sais pas, qui fêtent l'anniversaire, ce que j'ai compris.
Oui, allô?
Oui, bonjour Mathilde.
Oui, bonjour.
Vous devez avoir des jambes superbes, maintenant que vous faites du vélo électrique, c'est merveilleux. Non, je plaisante. Mais je veux dire, comment se passe cette transition, on va dire, en famille, aujourd'hui?
Aujourd'hui? Au-delà du vélo ou
Oui, parce que là, le vélo, on a compris que vous faisiez maintenant donc vos 30 km par jour avec assistance électrique.
Ouais, c'est ça. Et ben en tout cas ça c'était un vrai pas, parce qu'on avait le paramètre de, en tout cas moi, de pouvoir accompagner les enfants à l'école et d'être à l'heure au travail. Et l'alternative des transports en commun, c'était trop de temps, ça mettait une heure et du coup je pouvais pas avoir d'alternative à la voiture, et donc le vélo en était une. Et donc ça change. Bon, après d'un point de vue de la santé, d'avoir un effort physique,
c'est très chouette. Bien.
Et puis du rapport à l'environnement aussi, je passe par le centre-ville de Bordeaux et j'évite une demi-heure de rocade dans un milieu avec
hostile.
Toutes les autres voitures.
Hostile, disons. Je disais aussi, si vous rentrez le vélo électrique chez vous, donc on a bien compris que la rénovation de l'habitation, vous avez une maison maintenant où il fallait quand même garder l'inertie aussi quand même de la pierre, parce que c'est une maison du 18e siècle, voilà. Et vous avez donc pris des matériaux, alors très intéressants, je crois que c'est des fibres de bois, chanvre, lin.
Oui, c'est ça. Oui. Ça a été étudié. Alors ça, c'est plus la partie où je devrais repasser Nicolas. Il a travaillé. Je vous le repasse.
Et bon anniversaire au kit.
Oui, Denis. Oui.
Oui.
J'ai pas suivi la question, parce que...
Vous avez qu'un seul appareil, je ne peux pas vous en vouloir. Non, je parlais de la maison, pour la rénovation de la maison.
Oui,
je disais que vous aviez une maison où vous vouliez garder à la fois l'esthétique et aussi l'inertie de la pierre existante.
Exactement, c'est donc une rénovation sur un bâtiment qui date des années 1750-1800, une maison en pierre, et qui était vraiment très ancien, donc avec des gros problèmes d'isolation. Donc on retravaille sur l'isolation, donc on est allé voir, il y a des points info énergie qui renseignent très bien, qu'on peut consulter pour nous aider sur ces démarches-là, et c'est ce qu'on a fait, et on est arrivé sur une solution à budget maîtrisé, sur une grosse isolation en agro-matériaux. Donc fibre de bois, fibre de lin, chanvre, un peu de boîte de cellulose aussi à certains endroits. Enfin bref,
ouvertures qui sont au sud, ouvertures au sud. Et puis on va rajouter quand même de temps en temps. Donc alors le pull-over, c'est une très bonne invention. Merci Monsieur pull-over, mais aussi peut-être le chauffage, c'est quoi?
Un petit poêle à bois de complément pour les journées les plus froides. Donc on chauffe quoi. On doit une à deux stères par an un logement de 130 mètres carrés. Et alors des fois il se régule pas, il n'y a pas d'électronique, donc il y a des matins où il fait un peu plus frais, mais on met un gros pull et puis ça va.
Voilà.
Et puis après, on est très contents parce que c'était effectivement à budget maîtrisé et on a respecté nos convictions avec des matériaux agro-sourcés pour la plupart. et on est très très content du résultat.
Et bien, écoutez, un grand merci à vous. Je pense qu'on reviendra une autre fois sur votre métier parce que votre boulot donc nous intéresse et ça peut aussi donner des idées à des jeunes. Donc Jérémy Pichon, bah voilà, donc aussi un exemple que l'on retrouve dans Famille en transition écologique.
Oui, Nicolas, il a contribué au livre, il a drivé les 5 étudiants qui nous ont permis, en fait, puisque la base du livre, c'était quand même un immense tableau Excel où on a mis toute la consommation de la famille zéro déchet à l'époque, et toujours, dans un immense tableau avec logement, les bananes, tout ce qu'on achetait, les slips, etc. Et on a travaillé sur le bilan carbone et les ACV de certains analyses de cycle de vie,
de certains pans de
notre vie,
AVC,
parce qu'on voulait déterminer. On s'est dit, le zéro déchet, c'est bien, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on va loin? Jusqu'où on va? Et on voulait d'abord déterminer nos impacts dans notre vie de tous les jours, en termes de ressources, d'eau, de carbone, et surtout prioriser. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des impacts qu'on ne connaissait pas déjà, parce que tout ça nous échappe, en fait. Tout ça est invisible, tout ça est caché.
Et on va y venir sur les impacts qui nous échappent. On va revenir sur l'aspect donc financier des choses, qui arrive vraiment en numéro 1, c'est ça?
Exactement. En fait, on s'est rendu compte que le premier impact, c'était notre argent à la banque. C'est incroyable.
Allez, musique.
Je t'appelle dans la nuit, même au-delà de minuit, tu réponds. En toute amitié, je te dis je suis perdue, tu me guides par les rues et les ponts. En toute amitié, tu me raccompagnes chez moi, avec le son de ta voix, c'est galant. En toute amitié, ce soir tu n'es pas serein, tu as besoin de quelqu'un, c'est troublant. Je me fais couler un bain, téléphone dans la main, je me plonge. En toute amitié, tu voudrais être un gel douche, une bulle qui me touche, une éponge. En toute amitié, c'est vrai, je suis pire que nu, sous la mousse en ange et nu bien naïve. En toute amitié, tu frémis au bout du fil, je joue à la doux futile et j'esquive. En toute amitié, tu as relativement envie d'être mon amant pour ce soir. En toute amitié, je me couche sur mon lit, tout cela est très joli mais faut voir. En toute amitié, tu décris un peu mon corps que tu ne connais encore que de loin. En toute amitié, je soupire à ton oreille, mais c'est parce que j'ai sommeil plus ou moins. Félicitons nous tout bas, car une amitié comme ça c'est sacré. En toute amitié, félicitons nous tout bas, car une amitié comme ça c'est sacré.
Jeanne Chéral, qu'on aime beaucoup sur France Inter, en toute amitié, une amitié. Ouais, c'était l'amitié si vous avez écouté un petit peu les paroles.
La terre va mal, la terre souffre, j'ai mal à ma terre.
CO2, mon amour.
Mais des hommes ont décidé de faire la différence sur cette planète.
Denis Chessou.
La nature s'ouvre aux hommes uniquement si les hommes s'ouvrent à la nature.
Gandhi,
c'est moi. Bah non, c'est moi.
Sur France Inter.
Ah bah oui, Gandhi, c'est lui, c'est vous, c'est un peu tout le monde. En tout cas, peut-être qu'il est trop tard pour empêcher des impacts sévères du réchauffement climatique, parce que dans cette émission, on va pas raser gratis et vous le savez. Mais en revanche, il n'est pas trop tard pour limiter et pour éviter quand même l'emballement des phénomènes. Alors aujourd'hui, Jérémy Pichon, ça aussi, vous le priorisez dans votre ouvrage « Famille en transition écologique ». Ça représente quoi? Enfin, nos émissions de gaz à effet de serre, si on doit parler que de cet aspect-là, qui n'est pas le seul, d'ailleurs les problèmes environnementaux, mais qu'est-ce que c'est?
Tu viens de le dire, hein, on est aujourd'hui, on sait que 2 degrés à la fin du siècle, c'est acquis en termes de réchauffement. Oui. Et on est plus à essayer de limiter aujourd'hui, en termes d'objectifs, à 3, 4 ou 5. Et à chaque degré de plus, c'est un effet d'emballement. C'est-à-dire que c'est exponentiel pour les rendements agricoles, pour la température.
C'est 10% de moins de rendements agricoles mondiaux.
Par degré.
Par degré.
Par degré. Et évidemment, tout ça va se cumuler. Donc, l'idée, c'est de, maintenant, ok, on accepte les deux degrés, mais comment y rester? Et on a fait donc le bilan, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bilan carbone, entre autres, de notre famille et d'une famille traditionnelle française. Et on s'est rendu compte que la moyenne par Français aujourd'hui, en termes d'émissions, tout confondu, hein, de la personne au RSA jusqu'à Monsieur Bernard Arnault, tout en haut, on est à 12 tonnes de CO2 émis par personne et par an. Et si on voulait limiter le réchauffement aujourd'hui à 2 degrés, hein, d'ici la fin du siècle, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes. C'est-à-dire qu'on est sur un facteur 5-6 de réduction aujourd'hui.
Ce qui veut dire, notre traduction, on divise notre consommation de viande par 5 ou 6, ou bien on devient végétarien, on divise nos émissions de kérosène aussi par 5 ou 6. Enfin,
c'est ça, clairement, il y a 15 ans, rappelez-vous, hein, à l'époque du pacte écologique des Grenelles, on parlait de facteur 4. On est maintenant aujourd'hui au facteur 5 ou 6. Donc, on a tout continué dans notre logique de surconsommation, on a continué, et on continue d'utiliser de l'énergie pour transformer de la matière, pour créer des produits, et tout cette logique de surconsommation qui nous amène vers ce réchauffement climatique. Et il faut rappeler quand même que à 3, 4, 5 degrés à la fin du siècle, on va avoir ce qu'on fait un effet d'emballement avec la fonte du permafrost dans toutes les zones gelées aujourd'hui, libération du méthane et de CO2 comme jamais dans l'histoire de l'ère industrielle, et bien sûr un effet d'évaporation des océans qui est le principal effet de serre qui va augmenter. Donc voilà, concrètement, on va avoir des impacts sévères, vous le disiez, et surtout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est préserver l'habitabilité de la Terre, c'est-à-dire la possibilité pour l'être humain de rester sur Terre d'ici la fin du siècle. Alors, voilà l'urgence de notre situation.
Et dans cet ouvrage, donc, vous nous donnez donc une vue d'ensemble pour prioriser ces actions. Ça, c'est important parce que on n'arrête pas d'avoir des gens autour de nous qui disent mais par quoi je commence, etc.
Donc, exactement.
Alors, commencez par vous-même. Mais alors là aussi, c'est l'impact financier. On va juste rappeler une petite chose, c'est que aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, mais il y a à peu près 4 000 milliards de dollars qui tournent autour de la planète tous les jours. Et combien appartiennent véritablement à l'économie réelle, c'est-à-dire des échanges de biens et de services? Patrick Vivray nous l'avait déjà dit il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est 3%. Autrement dit, 97% des mouvements sont globalement spéculatifs. Le FMI rappelle que pour 1 euro d'économie réelle, vous avez 7 euros qui circulent par les fonds de placement boursiers. Et donc, on s'en occupe pas trop, on s'occupe du tri des déchets, de nos maisons, etc. Mais on a tous une banque. Bon, et alors là, qu'est-ce que l'on fait? C'est là que vous avez sorti un tableau assez édifiant, quoi.
Oui, c'était une étude qui a été faite par les Amis de la Terre, je les remercie, avec le cabinet Utopie en 2010. Et l'idée, c'était de mesurer un petit peu l'impact des euros placés par les banques. Parce que notre euro, là, qu'on gagne à la sueur notre front en travaillant, cet euro-là, c'est pas un billet qui est placé dans un coffre en Suisse et qui est thésaurisé. Cet euro-là, c'est une ligne informatique. C'est une ligne qui va circuler sur différents marchés et notre banque va le placer. Et à chaque fois que je parle de ça, je demande aux gens qui sont en face de moi, savez-vous à quoi sert l'euro que votre banque a placé? Personne est en capacité de me répondre, c'est-à-dire que je leur explique, sans doute que cet euro va financer l'extraction de minerais, va financer une centrale à charbon en Australie qui détruit la barrière de corail. Cet euro-là va aller vers les énergies fossiles, etc. Donc, par exemple, la Société Générale, entre 2009 et 2014, a placé 8 milliards d'euros sur les énergies fossiles. Et nos assurances-vie aujourd'hui, notre épargne principalement, un tiers de l'assurance-vie qui est le principal mode d'épargne des Français.
300 milliards de mémoire.
Voilà, finance essentiellement le charbon et l'électricité aujourd'hui. Donc, si on donnait le choix aux gens, aux Français aujourd'hui, dire est-ce que vous vouliez financer ces produits-là ou est-ce que votre argent, vous avez envie qu'il serve plutôt à financer des circuits courts locaux, d'énergie citoyenne, des coopératives, je pense que tout le monde aurait envie de réorienter son argent vers une transition locale et sur les territoires.
Alors, il va y avoir une obligation de fonds dont on parle, on va dire en tout cas plus vertueux d'ici 2020, parce qu'on veut dire qu'il y a quand même des choses qui existent. On peut placer quand même. Alors il y a le crowdfunding qui marche très très bien si on veut participer donc de façon commune à des énergies renouvelables ou bien d'autres ou installer des agriculteurs en alimentation, que sais-je. Donc ça existe quand même déjà.
Alors oui, on y a des petites choses. Le crowdfunding, évidemment, c'est très chouette, mais alors comparé au volume financier qu'on grâce dans nos quelques banques monopolistiques françaises, on en est très très loin, même si ça permet à des projets de naître. Et tant mieux, c'est génial. Mais aujourd'hui, on a l'ISR, l'investissement socialement responsable, qui est développé par les banques, qui n'est, et je le dis très clairement, qu'un outil de greenwashing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur les placements de ces fonds-là. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, mon épargne, moi, je décide de mettre 20 000 euros sur cet ISR-là. Vous savez pas si c'est 1%, 2% ou 10% de cet argent-là qui va être placé réellement sur le projet solidaire éthique que vous voulez soutenir. Il n'y a pas de transparence. Donc une grande partie de votre fonds, là, qui est soi-disant ISR, va aller comme toujours, alimenter des fonds spéculatifs.
Alors, mettez les mains
et boursiers.
Dans le cambouis, donc un peu financier. Alors, quelqu'un qui fait sa petite transition, et ça va nous faire notre petite page, on va dire, nature, c'est un homme qui s'appelle Pierre Moriras. Alors, Pierre Moriras, j'ai rencontré à Sautron, on est en Loire-Atlantique, c'est-à-dire dans la première couronne au nord-ouest de Nantes, hein, en direction donc de Vannes. Ce garçon, il a 34 ans, il s'occupe de la qualité des eaux souterraines, ça c'est son job, en tant qu'ingénieur. Et alors, et ben voilà, ce qui se passe dans sa commune de Sautron. Ah, je vois un panneau Sautron, Loire-Atlantique, ça ils l'ont pas indiqué. Bonjour Pierre Moriras.
Bonjour Denis.
Alors nous sommes chez vous, on n'est pas très loin de Nantes, hein. On va dire que c'est la banlieue de Nantes, donc cette commune de Sautron. Et là, vous m'emmenez dans un endroit, on va dire que c'est... Bon, peut-être que ça manque un petit poil d'espace vert quand même ici là.
Oui, alors on a la chance ici à Sautron en fait d'être entouré quand même de deux rivières, le Sens et le Gèvre, la Gèvrine, et donc avec pas mal de forêts, mais il y a quand même un petit point particulier, c'est que justement ce nouveau quartier, il est vraiment très minéral.
Alors, vous vous êtes dit, moi je suis quelqu'un qui a un peu besoin de nature, je comprends très bien les problèmes de densification qui existent. J'ai aussi un petit bonhomme de 4 ans. Alors, il est pas avec nous, là, parce que je crois qu'il est parti en cours. Il a le droit, quand même, d'apprendre 3-4 trucs aussi. Et quelle était votre réaction?
Bah, en fait, je suis arrivé dans ce quartier-là au tout début, il y a 3 ans. Et à l'époque, on n'avait pas encore de poubelles enterrées, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui fait qu'on avait des poubelles bleues, hein, pour tous les habitants du quartier. Et c'était un très très bon cours d'écologie, parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout de 2 jours après le passage des éboueurs, en fait les poubelles
dégueulaient, comme on dit.
Ouais, voilà, les poubelles dégueulaient. Ouais. Donc il y a une solution très simple à ça, c'est de mettre en place un composteur partagé.
Ouais. On rappelle qu'évidemment sur votre poubelle, vous avez 30% à peu près de déchets organiques.
Ouais, ça veut dire c'est un camion poubelle sur 3 qu'on peut retirer de la route.
Alors vous y êtes arrivé ça?
Ça, on y est arrivé avec l'aide de des habitants, de la mairie également, et de la métropole et d'une association composterie.
Vous avez créé une association?
Alors ça a été la base en fait, ce composteur-là, ça a été la base de la création effectivement de notre association, qui est une section en fait de l'Amicale Laïque de Sautron, parce que tout simplement, là on a accumulé un an de déchets organiques, ça a magnifiquement maturé, et là maintenant on a un super beau compost et on se demandait ce qu'on allait en faire.
Alors voilà, maintenant qu'est-ce que l'on fait? Jardinerie, agriculture, quels sont les débouchés? Chacun peut en reprendre un peu?
Eh bien en fait moi je me suis dit, comme on n'a pas beaucoup d'espace vert dans le coin, on a quand même des petites parcelles de 20-25 mètres carrés à droite à gauche, et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose.
C'est là le lien avec votre gamin et donc ce constat, quand vous êtes dit, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'espace vert, faisons avec ce qui est. Bon, les immeubles, ils sont là, on ne veut pas mettre des squares et des jardins donc partout, mais en revanche, on peut peut-être utiliser ces petits lopins et en faire des lopins productifs.
Tout à fait. Alors du coup, moi, j'ai été porter mon projet, hein, avec en faisant du porte-à-porte. Vous faites du vélo, Denis, moi, j'ai utilisé mes jambes dans un espace beaucoup plus restreint.
Non, mais c'est très bien.
Et en fait, en frappant aux portes et en discutant avec les gens du quartier, je me suis rendu compte que, de par la densification, les gens ne se toléraient pas. Et finalement, de la création d'une association de jardinage, j'ai plutôt créé une association de quartier qui a pour but de créer du lien à travers la pratique du jardinage.
Alors, où en est-on maintenant, donc aujourd'hui, Pierre? Parce que là, on voit, c'est merveilleux, bac à compost. C'est vrai que là, voilà, y a une personne là qui s'approche et hop, qui déverse son affaire. Mais pour ces petits lopins, on va dire. C'est marrant parce que c'est presque à hauteur d'un enfant de 4 ans, là.
Ah là, en fait, t'es au niveau de la parcelle, justement, de l'école maternelle. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que le projet a pour but de créer du lien à travers les habitants, mais aussi à travers l'EHPAD qui est dans le quartier, à travers la crèche, à travers l'école et aussi à travers les commerçants.
Faire un peu d'intergénérationnel.
Nous, ça part du petit Gabriel qui a 4 ans jusqu'au grand Charles qui a 95 ans.
Comment s'appelle l'association?
Les potagers de Jules. De Jules Verne, en fait.
C'est ça.
C'est ça.
Parce que je me suis dit, soit c'est le prénom de votre gamin, ce que je ne savais pas, ou bien on pensait quand même au Nantais, enfin un des Nantais quand même connus, qui est ce fameux Jules Verne. Lui, c'était d'autres aventures, elles étaient moins potagères, mais en tout cas, elles étaient extraordinaires parce qu'il avait quelques utopies. Et vous aussi, vous en avez, et maintenant, donc, elles prennent forme, Pierre. On a combien de bacs comme celui-là qu'on a vu?
Alors, on a a 8 parcelles. En surface, la plus grande parcelle fait 70 mètres carrés. Et puis après, c'est plein de petites parcelles entrecoupées de béton, quoi, en fait.
Et donc, avec le compost, c'est que vous avez récupéré.
Et voilà, avec le compost, là, qui est derrière, qu'on a vu au début, qui est derrière l'immeuble, où les gens viennent et amènent leurs déchets organiques. Alors ça, c'est... Il y a un côté, bien sûr, environnemental qui est génial, mais c'est surtout que les gens... c'est un peu place du village, quoi. Les gens viennent, se rencontrent et se parlent, quoi.
Et vous avez des nouvelles des vers de terre? Enfin, ils sont contents ou pas?
Ouais, ils sont super heureux. Là, en plus, ils peuvent passer l'hiver au chaud parce que très récemment, là, on a mis une sonde en plein milieu, il fait 70 degrés dedans. Ouais, bon, ça. Après, faut pas trop chaud aussi non plus, on est d'accord?
Non, mais ça tient le coup, quoi. Ça, c'est vrai que c'est des bêtes qui sont assez solides. Alors, est-ce qu'on tombe pas parfois sur ce côté complètement dingue en France, d'administratif, il faut des assurances partout, non, c'est pour homologuer, non, ça va, non, c'est...
La mairie nous soutient. Alors, c'est vrai qu'il va falloir quand même tout écrire sur des documents officiels pour que ce soit bien clair et net, mais on n'a pas attendu qu'au niveau administratif tout roule. On s'est lancé et
c'est ce qu'il faut faire, souvent.
Et on verra.
Bah oui, n'attendez pas tout, surtout pas. Pierre Morieras à Sautron en Loire-Atlantique, l'association Les Potagers de Jules avec l'amicale de Sautron. Bah voilà, ça nous fait du bien, ça aussi. Et on va poursuivre donc notre voyage avec notre famille en transition écologique et Jérémy Pichon après. Ah mais dites donc, on avait une Jeanne Chéral, mais on n'a pas assez de Jeanne. On en a une deuxième, Aded.
My breath will find
vrai talent soutenu par France Inter. On est heureux de l'avoir en playlist, comme on dit. Jeanne Haddad, Falling Hearts. Le cœur est un peu brisé. Mais si vous voyez, c'est comme d'habitude, si vous racontez des histoires d'amour qui vont bien, mais tout le monde s'en fiche, tandis que là, un cœur brisé. Ah, tout de suite, on y est.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Voilà, et donc on poursuit le voyage avec vous, Jérémy Pichon. Des familles en transition écologique, j'espère qu'ils n'ont pas le cœur brisé. Alors, les priorités, c'est intéressant de pointer cela, parce que vous avez tout un tableau qui était effectué. Donc on a dit, d'abord, s'occuper de sa finance.
Voilà, en priorité, c'est cet argent-là qui est finalement notre premier impact, puisque cet argent va travailler et financer les énergies fossiles. Et c'est aussi, ce qui est génial, c'est que c'est aussi le nerf de la guerre. Donc ça va être le premier outil pour faire cette transition écologique. Il va falloir qu'on flèche les flux financiers, et qu'on réoriente l'argent vers des projets qui soient de territoire, éthiques, solidaires, ou encore une fois, je l'ai dit, pour financer les circuits courts, financer l'énergie citoyenne, etc. Donc, premier impact et première action, vraiment l'argent. On s'est rendu compte que sur notre bilan d'une famille traditionnelle française, 40% de son impact, en moyenne, c'est la finance. Le deuxième, ce sont les transports, avec en premier lieu l'avion, qui est une catastrophe pour le climat, il faut le dire et le redire. Je vous ai dit tout à l'heure, on a un quota carbone individuel annuel de 2 tonnes de CO2. 2 tonnes, c'est rien. Rendez-vous compte, quand vous faites Paris-New York aller-retour, c'est 2 tonnes 2 de CO2. Vous avez déjà éclaté...
Là, vous allez vous faire traiter de rabat-joie par plein de
mais
gens
pas
en disant
soucis.
C'est quoi, c'est écolo, etc. Enfin,
ouais,
c'est classique. Hein,
donc. Ouais, complètement. Moi, je voyage, j'adore ça. Et j'adore les cultures étrangères. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on repense le voyage. C'est-à-dire que partir tous les 3 mois, 8 jours ici, une semaine là, et ça n'a pas de sens. D'abord, on est des touristes, on n'est pas des voyageurs. Et on se fait prendre pour les touristes et on a un portefeuille sur pattes, et je l'ai connu. Par contre, se dire, je fais un long courrier tous les 3-4 ans. Et par contre, là, je pars 6, 8, 12 semaines. Là, je repense mon voyage. Et je repense aussi, moi, mon quota carbone. Parce que c'est peut-être ça aussi, c'est qu'on arrête d'être dans la culpabilisation et de passer dans la responsabilisation. Moi, je suis responsable de mon quota carbone. Qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, cette année, je pars pas en long courrier. Je pars en région ou même en Europe. Je veux dire, on peut prendre le train pour aller à Prague, à Londres. Je vais à Londres mercredi avec mes enfants. On y va en train. On a un impact carbone qui est tout petit. J'ai pas dit ne voyageons pas.
Profitez-en parce qu'il y aura que à la douane bientôt. Donc.
Zap, ça va. Et voilà, les transports et l'avion, il faut se responsabiliser. Clairement, aujourd'hui, on nous propose des voyages à 30 euros sur EasyJet. C'est une catastrophe. Et l'État va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui.
Et aussi social. Hein.
Voilà, on défiscalise le kérosène à 800 millions d'euros annuels. On baisse la TVA sur les billets. Et on entraîne tout le monde dans ce secteur-là parce que ce secteur rapporte. Et ce secteur, c'est les grands copains de ceux qui nous gouvernent. Donc, et pour l'instant là, on ferme les petites lignes de SNCF parce qu'on dit qu'on n'a pas l'argent pour juste les entretenir. C'est un scandale, on est à l'inverse de l'histoire. Et on a l'inverse de ce qu'on devrait faire en termes d'écologie.
Alors,
sur les transports.
Lorsque l'on vous parle de croissance verte ou du développement durable 2.0, là, vous dites qu'il y a quand même un petit oxymore qui n'est pas très très simple et qui est quand même porté pour qu'il y ait la confiance ou que ce soit porté donc par l'État. Et c'est vrai que ce discours-là, on l'a assez souvent.
Oui, clairement, je pense qu'aujourd'hui, l'État n'a qu'une fonction, c'est de continuer à faciliter le commerce international et celui des grands groupes qui sont les grands financeurs des politiques et qui sont de toute façon, ce sont ces élites financières et politiques qui se retrouvent de même famille, dans les mêmes lieux, etc. Donc, on a un État aujourd'hui qui n'est absolument pas dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'écologie et dans le sens
des
citoyens.
Alors, on va dire qui essaye.
Moi, je crois qu'ils y vont pas du tout. Et avoir les gilets jaunes qui manifestent, je vois une pancarte, c'était marqué « changer le système ». Évidemment qu'il faut changer le système. Évidemment qu'il faut le faire par le haut. Et actuellement, on va en sens inverse, clairement. Et qu'est-ce qu'on nous avance? On nous dit « vous inquiétez pas, on a la croissance verte et l'économie circulaire ». Alors, j'ai rien contre l'économie circulaire. Et sur le principe, cradle to cradle, ça fait longtemps qu'on en parle. Et ça pourrait être très bien. Sauf qu'aujourd'hui, la croissance verte, ces deux mots n'ont rien à voir ensemble. Croissance et verte, c'est un oxymore. Aujourd'hui, la croissance verte, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par la création de nouveaux marchés. On va créer la voiture électrique, tout ce qui est smart grid, tous les détecteurs de lumière, etc. Tous ces trucs-là sont censés nous permettre d'économiser de l'énergie, donc des émissions de CO2 à l'utilisation. Sauf que on va répercuter en amont et en aval tous les impacts en termes de d'émissions de CO2, de pollution de l'eau, d'utilisation de ressources. L'exemple de la voiture électrique.
D'extraction de minéraux, de terres rares, comme on dit, entre autres choses.
Exactement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout en train de dire on va passer à un autre système. On est en train de dire on crée les nouveaux marchés et surtout, on garde celui qu'on avait avant. Et ça, c'est la grande hypocrisie. C'est-à-dire qu'on va faire de l'énergie verte. Oui, mais on continue à faire du nucléaire. Alors, on va faire des voitures électriques. Oui, mais on continue d'avoir des voitures voitures thermiques. L'année dernière, 4% en plus de ventes de voitures avec un contrôle technique à 400 points. On n'est pas en train de relancer la croissance en permanence. Donc cette croissance verte, c'est une illusion, c'est un mythe. Et l'idée qu'on va pouvoir continuer à consommer tel qu'on fait,
alors je fais quoi,
mais en circuit fermé, voilà, c'est pas possible.
Parce que c'est vrai que le génie technologique humain nous permettra de faire plus avec moins, ça on l'entend, et ce qui est vrai, qui peut réussir quand même pas mal, parce que ça a quand même été une réalité. L'économie sera circulaire, nous allons produire en cycle fermé, et le recyclage sera à la base de cette révolution. Ça, les gens, globalement, ils adhèrent.
Bon, vous dites... Ils adhèrent parce qu'ils peuvent continuer à consommer, donc évidemment qu'on adhère tous. Et c'est tellement pratique, tout le monde est d'accord, du haut en bas de la chaîne, il n'y a rien à changer, sauf qu'on va continuer à extraire, transformer et polluer. Et on surajoute, je répète encore, des nouveaux marchés à ceux existants qui ne disparaissent pas. Le business, tout le monde est gagnant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, il faut absolument rappeler qu'il n'y a pas d'énergie propre. D'abord, le mot vert, je n'en peux plus de ce mot vert. Il n'y a pas d'énergie propre, il n'y a pas d'objet durable. La seule chose qui pourrait être durable, ce sont nos modes de vie. Donc la première chose à faire, ça va être de réduire. C'est les 4 R. Réduire, réutiliser, réparer, recycler. Aujourd'hui, on nous met le dernier en premier, recycler. Non, celui-là, il faut le mettre en dernier. La première chose, ça va être de réduire, réutiliser, réparer. Et donc, ça veut dire avoir des modes de vie qui sont plus sobres. Ce qui ne veut pas dire ne plus avoir de confort. Et au contraire, ce qui veut dire gagner en qualité de vie. On va ralentir, on va manger mieux, on va faire du lien social, on va créer des emplois sur les territoires. Ces mêmes emplois qu'on nous a volés. Je prends l'exemple de l'agroalimentaire qui nous ont piller les territoires pour nous mettre des Lidl et des Leclerc, et tout le monde est au chômage de masse, il nous reste quoi? Les emplois de caissière et de magasinier, c'est ça l'avenir?
Et qui pique toute la valeur.
Exactement, réinstallons des maraîchers, des conserveries.
Et la loi Egalim, ça ne marche absolument pas.
Et l'ironie, c'est qu'en plus, je vois les pubs en ce moment, les Lidl, les 4x3 dans la rue, on nous raconte qu'on crée de l'emploi et qu'il y a des postes à pourvoir. C'est d'un cynisme sans nom.
Alors quelqu'un qui vous écoute, c'est notre ami Valère Correa. Bonjour Valère.
Bonjour à vous.
Et ben voilà, donc Valère, on vous retrouve tous les là aussi avec séquence, on va dire idée le dimanche à 6h50 où là vous faites vraiment de vous aussi on va dire de vous êtes un média de solution. Vous êtes alors là le média de solution, c'est idée, ça s'écrit simplement idée. Et là vous lancez une campagne de crowdfunding comme on dit. Donc on peut vous aider. Pourquoi? Dites-nous tout.
Oui, c'est vrai, on a lancé une campagne de crowdfunding parce que vous savez les médias indépendants aujourd'hui ont souvent recours à ce mode de financement, je vous entends.
Donc financement participatif, on va le traduire en français, c'est financement participatif, voilà.
Oui, c'est ça, et c'est vrai que là, c'est aussi une alternative au financement par des banques qui prêtent à généralement ceux qui ont déjà. Enfin, j'enfonce un peu une porte ouverte.
Non, mais il faut le rappeler.
Voilà, alors c'est vrai que le financement participatif, nous, on a vu ça comme une solution depuis la création, puisqu'on est un média de solution, et ça en fait partie, donc pourquoi pas se l'appliquer à nous-mêmes. En fait, ce qu'on voudrait faire avec ce média, l'info durable, c'est d'aller davantage dans les territoires, parce que je vous entendais aussi en discuter tout à l'heure, il y a tout un tas de choses qui se passent dans les territoires qui sont très inspirantes, évidemment, mais ça demande des moyens, ça demande des journalistes, il faut faire du terrain, il faut rencontrer les gens, il faut veiller, il faut sourcer, et donc c'est pour ça qu'on a lancé une campagne de financement participatif.
Donc on vous retrouve sur le site de CO2 Mon Amour avec ce site-là, donc si vous souhaitez donc soutenir cette affaire. Grand merci Valère, donc demain matin ce sera 6h50, hein, voilà, ce sera ça.
Exactement.
Ouais, faut se lever tôt quand on fait de l'écologie aussi. Merci, merci à vous. On va dire en quelques mots, Jérémy Pichon, allez, 2050, on se projette, on adoucit, on réduit la vapeur, c'est le cas de le dire. On se calme, on est une société plus apaisée. Qu'est-ce que ça peut être justement demain pour quelle sera ma vie dans mon siècle si on s'y prend bien, ouais, parce qu'on a quand même tout sur la table.
Mais oui, c'est ça que je veux mettre en avant avec ce livre et dans tout ce que je peux raconter, c'est que les solutions existent. On a parlé finance, on a parlé transport, il faudrait aussi parler logement, alimentation,
bien sûr,
services publics, voilà, tous nos impacts sont là. Et dans tous ces domaines-là, on a des solutions. Le logement, on sait construire des maisons éco-conçues qui sont passives, qui ont des matériaux qui stockent du carbone à l'origine quand elles poussent, le bois, la paille, etc. On sait faire tout ça. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On construit tout en béton, qui est l'inverse de ce qu'on devrait faire. Donc voilà, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aller vers toutes ces solutions-là, et la clé, ce sera l'individu et le territoire. Voilà, sur le territoire, mobilisez-vous, amis de gilets jaunes, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est aller vers les solutions sur les territoires, créer des coopératives, aller avec nos maires, nos comités de communes, et faire des coop de construction, des coop alimentaires, etc. C'est là
Jérémy
la clé.
Pichon, illustré par Bénédicte Moret, Famille en transition écologique aux éditions Soucard, vraiment temps, ne vous privez pas. Merci Mathias Saléon, Camille Blanès, Thomas Lehété, Jérôme Boulet qui réalise l'émission, Thierry Dupin, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Semaine prochaine, je vous offrirai un 100% nature. On va s'offrir une ronde de printemps comme j'aime la faire tous les ans. Ronde de printemps avec nos correspondants nature. Et puis le podcast, vous en avez l'habitude, rediffusion entre 5h et 6h du matin. Et la tue du bon petit loup, ce sera demain à 19h54.